L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévot.
Bonjour à tous pour cette nouvelle rencontre autour de l'Évangile pour le couple.
Oui, bonjour.
Alors, nous avons la dernière fois abordé un sujet difficile, délicat, qui concerne l'adultère, donc qui concerne entre guillemets le péché d'une seule chair infidèle, qui est, comme le souligne Jésus lui-même, le cœur, la matrice de l'alliance conjugale, la liturgie propre des époux, dira Jean-Paul II, je crois qu'on l'a déjà exprimé. Et donc, on a souligné à la fois la gravité d'un tel acte, d'une telle infidélité, et puis à la fois l'immense miséricorde de Dieu, l'immense miséricorde de Jésus, le pardon, la non-condamnation, et à la fois cette invitation à ne pas pécher, particulièrement en couple, dans ce domaine-là, à la fois au niveau du corps, bien entendu, mais aussi au niveau du cœur. Donc une invitation d'exigence. Et donc au travers de cela, bah forcément, étant donné nos faiblesses les uns aux autres, c'est l'importance d'accueillir dès le plus jeune âge du couple la miséricorde du Christ, d'implorer sa miséricorde, et de savoir dès le départ qu'on n'a pas simplement une bonne vie chrétienne en termes de valeurs à vivre. Ça, entre guillemets, on écoute de plus en plus, à la rigueur, peut-être pas besoin d'être chrétien. D'être chrétien, c'est d'accueillir surtout la miséricorde de Dieu pour qu'il nous transforme en tant que tel. Nous n'avons pas, en tant que chrétien, le monopole de la vertu. Très loin de là, sinon ça se saurait. Par contre, nous sommes, au travers de la foi, nous avons le canal privilégié de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour qu'il nous transforme et qu'il nous purifie et qu'il nous fasse grandir.
Comme on a déjà exprimé plusieurs fois, le couple est appelé à vivre cette communion de l'homme et de la femme qui est visage de Dieu, qui est visage de l'amour. Or ce visage, nous l'altérons souvent par nos comportements, par notre faiblesse, par notre incapacité à aimer. Rappelez-vous ces trois blessures dont nous avons parlé suite au péché, à la chute. En Genèse 3, nous sommes blessés dans notre relation à nous-mêmes, blessés dans notre relation aux autres, blessés dans notre relation à Dieu. Et voilà que, parce que nous sommes chrétiens, nous pouvons acquérir cette lucidité sur notre faiblesse qui va nous permettre de demander au Christ d'intervenir concrètement dans notre vie, là où justement nous sommes dans la capacité de nous aimer. Donc, comme à chaque fois, nous allons essayer de partir d'un texte d'évangile qui va éclairer ce thème que nous allons aborder dans cette rencontre. Comment accueillir cette miséricorde du Christ? Comment nous laisser habiter par cette force qui va nous permettre à nouveau de rentrer dans cette communion à laquelle nous aspirons tant?
Je vais peut-être lire le texte, inviter Maud à nous le commenter, parce que c'est un texte que Maud aime particulièrement. Alors, voilà, donc c'est dans Matthieu 9, versets 27 à 31. Comme Jésus s'en allait de là, deux aveugles le suivirent, qui criaient et disaient: aie pitié de nous, fils de David. Étant arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit: croyez-vous que je puis faire cela? Oui, Seigneur, lui disent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant: qu'il vous advienne selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur interdit de dire ce qui s'était passé, mais eux répandirent sa renommée. Alors comme on s'est pris au début de notre parcours à la liberté, le moment de dire, Maud, que les disciples d'Emmaüs étaient un couple, un homme et une femme, et ben là, voilà, bah tiens, allez, ces deux aveugles, un homme et une femme, et en plus ils sont mariés.
Partons sur l'hypothèse que ce texte s'adresse directement à nous. Nous sommes couple, nous sommes mariés, nous sommes deux aveugles. Aveugle, ça veut dire quoi? Qu'on ne voit pas comment avancer, qu'on ne voit pas comment sortir de notre cécité qui fait que justement nous avons du mal à porter un regard d'amour sur l'autre, surtout quand il nous a blessés. C'est vrai que c'est les moments les plus difficiles. Quand l'autre nous a blessés, comment continuer à dire je t'aime et je sais que ton amour est plus fort et que mon amour est plus fort? Concrètement, nous butons à notre faiblesse. Et là, ces deux individus, côte à côte, vont crier vers le Christ. ils viennent et ils le suivent en disant « Aie pitié de nous, aie pitié de nous ». C'est la première démarche que nous avons à vivre. Est-ce qu'en couple, nous pouvons simplement nous arrêter, nous tourner vers le Christ en disant « Aie pitié de nous ».
Je crois que c'est quelque chose de très important, de bien se rendre compte que cette parole, quand on dit « deux aveugles criaient et disaient », on rejoint là, on s'adresse pas là qu'au couple chrétien, on s'adresse, et Jésus bien sûr, et l'évangile d'abord, s'adresse à tous les couples. Aujourd'hui, très très nombreux sont les couples, sont les conjoints qui au fond de leur cœur crient, de manière très intime, parce que leur couple ne répond pas à leurs aspirations premières. Je crois qu'on l'a déjà exprimé il y a quelques semaines. Un couple, quand il se marie, quand il se met ensemble, même au-delà de l'aspect sacrement, l'aspect mariage, à un moment, bon, on tourne, on vit, etc., etc. Puis à un moment, il y a vraiment un choix, il y a une élection qui est faite. Je veux faire ma vie avec toi, avec tel homme, avec telle femme, etc. Il y a vraiment ce désir. Et puis au fur et à mesure de l'expérience, il y a une profonde déception, très souvent, qui est exprimée. Il y a une difficulté, ou alors, bon, voilà, tout va bien matériellement, etc. Mais au niveau de l'intimité, du partage, de la vérité, etc., on est finalement déçu. Et c'est une profonde souffrance. Et donc, de cette souffrance, s'exprime un cri de cette souffrance. Et effectivement, vers qui on s'adresse? Alors, effectivement, c'est qui un psychologue? C'est qui un médecin? C'est qui a les horoscopes? C'est qui, je sais pas quoi? Et puis, c'est qui est aussi beaucoup à Dieu? Mais beaucoup ne connaissent pas Dieu. Et ils crient, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma souffrance. Aie pitié de ma maladie. J'ai besoin d'être guéri. C'est dit de manière consciente, par certains. Mais c'est dit très souvent de manière inconsciente. Beaucoup n'ont pas conscience. Mais leur vie crie. Quand des mamans, on est complètement éperdu, soit dans des sexualités débridées, soit dans une recherche du pouvoir, soit dans une recherche de puissance, recherche de reconnaissance, etc., etc. Quand des mamans, on a besoin de retrouver, enfin, c'est X travers dans lequel finalement c'est notre vie qui crie, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et effectivement, nous aspirons profondément au bonheur, et parce que nous sommes faits pour le bonheur. Mais que nous ne goûtons pas ce bonheur, que nous ne goûtons pas la vérité, notre vérité, de manière, notre vie, de manière consciente ou inconsciente, crie « Sauve-moi, sauve-moi ». Et il y a tant de nos contemporains qui crient justement « Sauve-moi ». Il faut entendre ce cri de ces aveugles, et cet évangile nous le rappelle, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, tant de couples crient « Sauve-moi ».
Alors là où c'est absolument stupéfiant, c'est que Jésus ne répond pas à cette question immédiatement, à cette interpellation. Il pose une question. Et laissons-nous interpeller par cette question où Jésus nous dit « Est-ce que vous croyez que je peux faire cela pour vous ?» Cette question, elle nous est tous adressée parce que lorsque nous crions vers Dieu, souvent nous lui demandons des choses à notre façon. « Là, 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 je voudrais que tu fasses ci, je voudrais que tu m'arranges ça, etc. » Mais le cri profond de notre cœur, est-ce qu'il entend la question de Jésus en réponse? Est-ce que tu crois que je peux faire ça pour toi? Est-ce que tu crois que je peux intervenir dans ta vie? Est-ce que tu crois que justement, là où ton couple souffre, je peux apporter une réponse? Je peux t'aider à surmonter cette épreuve? Je peux te trouver une solution dans cette difficulté, dans cette souffrance que tu exprimes? Et là, Jésus nous appelle à répondre par notre foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Comment est-ce qu'on peut dire « est-ce que j'ai la foi ?» C'est une sorte de pas en avant, de sortie de nous-mêmes. Est-ce que je crois fondamentalement que Jésus peut apporter une réponse dans mon couple? Est-ce que je suis prêt à faire ce pari incroyable que cette rencontre que j'ai vécue avec Jésus, que ce visage qui est l'amour, est-ce que je crois que ce visage peut m'aider à sortir de ma difficulté?
On souligne là, au travers de cette parole, au travers de cet événement des deux aveugles qui crient vers Jésus, c'est quelque chose que le Seigneur, la question, l'interpellation que le Seigneur nous adresse à tous, à Alex et Maud d'abord, et puis à nous tous qui écoutons, particulièrement les couples, particulièrement les jeunes, qui désirent vivre une vie amoureuse, c'est est-ce que tu crois que Jésus peut être le salut? Est-ce que tu crois que Jésus peut t'aider, te peut transformer, peut purifier, peut sauver, peut sanctifier ton amour, ta relation conjugale? Ou c'est quelqu'un qui est périphérique? Ou c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un petit peu de sel, quoi, c'est périphérique, ça peut faire de mal, quoi, mais bon, le bien, ça, on sait pas, mais voilà. Quelle est la foi que tu mets en Jésus? Et la foi que tu mets en Jésus, c'est en réponse aussi avec, effectivement, le cri que tu pousses, l'aspiration que tu cries face à Dieu, face à la vie. Quel est le cri que nous poussons face à Dieu? Quelle est la foi que nous mettons en Jésus? Et Jésus nous invite à répondre très librement à ces questions. Avec ce couple d'aveugles qui crient auprès de Jésus et qui sont interpellés par Jésus, croyez-vous que je puisse faire cela? Donc qui interpellent leur foi dans la guérison, leur foi dans pour retrouver la lumière. Et combien nous faisons le parallèle avec chacun de nos couples qui a besoin effectivement aussi de trouver la lumière, de pouvoir se ressourcer, dans l'amour, dans l'alliance qui a été nouée il y a, 3 mois, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, allez, peut-être pour certains 60 ans, 70 ans, parce que maintenant, on va en prendre pour 60 ans, 70 ans, hein, vu la durée de vie. Maud, tu nous accompagnes un peu dans cet évangile, au-delà de cette rencontre et la question de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé après?
Alors, la question de Jésus, c'était donc, croyez-vous que je puisse intervenir dans votre vie de couple, intervenir dans votre pauvreté, vous relever de cette souffrance, vous aider à aller vers ce que vous attendez de vivre, cette aspiration profonde au bonheur qui est inscrite en nous. Et voilà que Jésus nous répond, si vous arrivez à me faire confiance, si vous acceptez de croire que je peux faire cela pour vous, alors qu'il advienne selon votre foi. Nous voyons bien que c'est la foi qui est en cause. Et qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est cette confiance, justement, que Jésus peut intervenir et changer le cours des choses. Pas nos événements, je dirais les événements de la vie quotidienne qui nous sont imposés, mais peut changer notre façon d'y vivre. Et il y a cette phrase très étonnante, « Alors leurs yeux s'ouvrirent ». Bon, évidemment, c'est pas étonnant pour des aveugles qui demandent la guérison, mais ça fait évidemment référence à un autre autre passage où on entend parler des yeux. Je ne sais pas si tu te souviens, Alex, quand on a parlé dans Genèse 3, au moment de la chute, une fois que l'homme et la femme ont goûté de l'arbre, du fruit de l'arbre défendu, alors il est dit, leurs yeux s'ouvrirent. Mais à ce moment-là, les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts sur justement l'abîme qu'ils avaient creusé entre eux et Dieu, entre eux-mêmes, les conjoints, et entre justement cette opacité nouvelle qui était née dans leur vie.
Et à ce moment-là, ils eurent honte l'un devant l'autre, et ils s'habillèrent de pagne, etc. Et c'est à ce moment-là tout le regard dévié et malsain que le péché introduit dans notre relation. Alors que là...
On est dans exactement l'inverse, c'est la réponse. Les yeux s'ouvrent, mais ils s'ouvrent sur une nouvelle lumière, sur une beauté, sur un regard que je vais porter sur l'autre, qui est complètement transformé. Et ça, je crois que c'est vraiment l'expérience que vivent les couples qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Et de ça, on peut vous en témoigner, parce que ça nous est arrivé 10 fois, 100 fois, 1000 fois dans notre vie conjugale. Quand on est capable de dire non, là, Jésus, c'est au-delà de mes forces, je ne peux pas l'aimer jusque-là. À ce moment-là, nous mettre à genoux devant le Seigneur en disant sauve-nous, maintenant interviens, et nous croyons que tu peux changer notre regard. Et tout d'un coup, on se rend compte que notre regard change et qu'on est à nouveau capable d'aimer l'autre, malgré, je dirais, ce qui s'est passé, mais presque à la limite, grâce à ce qui s'est passé, l'amour s'approfondit et on découvre en nous des capacités d'aimer qu'on n'imaginait pas possibles.
Et je reviens sur la thématique que tu as abordée en faisant le parallèle avec la Genèse. Justement, par rapport à tout le sens de la sexualité déviée, qui a été expérimentée à partir de Genèse 3, dans le sens du corps, etc. Et au contraire, là, ici, effectivement, on présente cette parole quasiment inversée, puisque finalement, le regard devient lumineux. Il en va de même au niveau de la sexualité. Combien nous avons eu de témoignages? Nous essayons de le vivre, de l'expérimenter, mais combien nous avons vu aussi beaucoup de témoignages de couples qui ont vécu 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 15 ans sans le Seigneur, ou en tout cas avec le Seigneur mais qui l'ont abandonné, et qui effectivement avaient une sexualité à un moment qui était plus intéressante, ils étaient lassés, ils avaient marre l'un de l'autre, et surtout ce qu'ils regardaient c'était autour, et à un moment la rencontre de Jésus vivant, l'expérience de son amour, de sa miséricorde, de sa transformation, de la nouvelle vie, leur a donné de dire, mais c'est incroyable, on a l'impression qu'on s'était jamais aimé, qu'on s'était jamais uni. Ils ont retrouvé après tant d'années une fraîcheur, une disponibilité, mais jamais on s'est aimé comme ça. Jamais j'ai eu le sentiment d'aimer intimement mon époux, mon épouse comme cela. C'est-à-dire que le Seigneur, il vient pas simplement faire des belles dissertations spirituelles, etc., etc., mais il vient renouveler profondément notre sexualité. L'important, c'est pas les positions du Kama Sutra qui vont donner de la sève à notre vie conjugale, mais c'est le regard que nous portons l'un pour l'autre, l'un sur l'autre, c'est que vraiment notre relation, notre intimité puisse nous renouveler, puisse s'enrichir au fur et à mesure, puisse nourrir avec une fraîcheur. C'est ça qui est une bonne nouvelle, c'est ça dont le monde aspire profondément. Pourquoi vous croyez que les gens vont aller rue Saint-Denis, qui vont aller courir les magazines, internet, etc., tout ce porno chic ou ce porno choc qui nous environne, c'est quoi? C'est que le monde crève d'amour et qu'il ne le trouve pas dans sa relation, donc il est là comme à poursuivre un savon, comme on a déjà pris l'image de ce savon qui est mouillé, d'ailleurs lequel on court. Mais rencontrons plutôt Jésus. Rencontrons Jésus comme ces deux aveugles. Accueillons sa miséricorde, son pardon, sa guérison. Et à ce moment-là, notre vie va trouver tout à fait une autre saveur. Et notre sexualité va être aussi transformée. Jusque dans la sexualité, le Seigneur vient nous... plutôt que toutes les thérapies, ça peut faire du bien entendu, psychologique, etc. Bon, ça peut tout à fait être positif. Mais excusez-moi, mais on reste à la périphérie des choses. Combien l'avons-nous vu? On reste à la périphérie des choses. On met des rustines, alors que le cœur, c'est d'avoir notre chambre à air qui est profondément renouvelée par l'amour du Christ et l'action du Christ.
Justement, si le cœur est renouvelé, comme on disait déjà dans une précédente émission, comme c'est le cœur qui va induire la relation d'amour, si notre cœur est renouvelé de l'intérieur par un amour tout frais, tout disponible, à ce moment-là, nous allons célébrer dans la fête. Et à ce moment-là, je reprendrai les paroles d'un couple que nous avons entendu il n'y a pas très longtemps nous dire à quel point, au bout de 20 ans de mariage, ils avaient l'impression d'être comme de jeunes fiancés. Il y a tout d'un coup coup, l'irruption du Christ et de l'amour du Christ dans nos vies de couple nous donne une énergie, une sorte de fraîcheur nouvelle qui fait qu'on va à la fois retrouver comme un goût de fiançailles et à la fois, avec toute l'épaisseur de nos années communes, nos années de vie ensemble, nos années d'épreuves traversées ensemble, qui va donner une densité encore plus grande. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est difficile à exprimer parce que le monde ne nous parle jamais de la grâce de la durée dans le couple. Mais mon Dieu, comme c'est beau de s'aimer dans la durée, comme c'est beau de rentrer dans cette profondeur, dans cette épaisseur de vie qui prend des couleurs toujours différentes. C'est un peu comme la mer, on pense que c'est bleu, mais ça prend mille couleurs, mille facettes. Il suffit de la laisser être éclairée par le soleil, et à ce moment-là, on découvre des nuances qu'on n'avait jamais vues.
Mais c'est vrai que pour de plus en plus de couples aujourd'hui, croyants ou incroyants, cette expérience auquel tu nous invites est une expérience de plus en plus difficile, de plus en plus utopique, réservée à une élite, je ne sais pas l'élite de quoi d'ailleurs, mais bon, en tout cas à des gens d'exception, etc. Alors que, justement, le sens de l'évangile, le sens de la bonne nouvelle du Christ au niveau du couple, c'est de dire, si vous le désirez, si vous désirez goûter cela, moi je peux vous conduire à cette expérience, si vous suivez mon chemin, si vous me rencontrez, si intimement, librement après à vous, mais effectivement, nous pouvons goûter cette vie, et nous aspirons d'ailleurs, la très grande majorité de nos contemporains aspirent à goûter cette expérience de la vie amoureuse dans la durée, mais ne la goûtent pas. Cette espérance s'éloigne. Elle est réalité, elle peut devenir réalité, elle peut devenir une promesse concrète dans nos vies, si jamais nous accueillons vraiment le Christ.
Justement, c'est le point qu'on a abordé de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est un mot qui signifie, en fait, littéralement, les entrailles de mère de Dieu. C'est le côté, je dirais, maternel. C'est-à-dire que Dieu est complètement saisi par l'amour pour les hommes et les femmes qu'il a créés. Et cet amour-là l'étreint tellement qu'il n'a qu'une hâte, c'est que nous nous jetions dans ses bras. Et c'est pour ça, quand on parlait de la blessure qu'est l'adultère, qui est la blessure des blessures dans un couple, mais il y en a beaucoup d'autres, aucune blessure ne résiste à la tendresse du Père. Par contre, ceux qui résistent, c'est notre incapacité à nous jeter dans les bras du Père. Et c'est que si nous avons le courage de nous précipiter vers Dieu en disant « Oui, j'ai besoin de toi, sauve-moi, sauve-nous », à ce moment-là, il peut intervenir. Parce qu'à ce moment-là, il peut nous prendre dans ses bras et renouveler l'amour que nous sentons dans notre cœur. Mais si nous ne faisons pas cette démarche, il lui est impossible d'intervenir. Jésus ne force jamais personne. Il peut tout dans le domaine de l'amour, il ne peut rien quand nos cœurs sont fermés. Il lui est impossible d'agir. Il ne peut agir que s'il y a cette ouverture du cœur dont on parlait justement dans le début de cette rencontre, par le cri que nous poussons. Si nous ne poussons pas de cri, notre cœur ne s'ouvre pas. Jésus ne peut rien faire.
Allez, on va aller vous inviter. Allez, les uns et les autres, on va les crier auprès de Dieu. Mais plus sérieusement, je crois que vraiment... Notamment ceux qui ont été plus touchés ou interpellés par cette parole, vraiment de vous inviter à réfléchir, à discerner, pour que vous puissiez prendre un temps de retraite, de recul, d'accompagnement spirituel, de discernement, de relecture personnelle, conjugale, pour que vraiment vous puissiez exprimer vraiment ce cri, cette foi en Dieu, pour qu'il puisse guérir nos vies et guérir nos couples.
Voilà, à la prochaine fois.
Extravagant love of God, the intimate friendship of the Holy Spirit.
May the grace of our Lord be with you now and always. May you stay blameless till it comes. May the love of our Lord be with you now and always. May you stay blameless till it comes.
May our Lord Jesus Christ himself encourage and strengthen you in every good thing you do and say. God
loved us, and through his grace, he gave us shining hope and encouragement that continues forever.
May the grace of our Lord be with you, now and always, may you stay. Blameless till he comes, may the love of our Lord be with you, now and always, may you stay. Blameless till he comes.
Love makes the faith be yours. From God the Father, and from the Master, Jesus Christ.